Il est 13h sur France Inter. Xavier Demani nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour. Les Algériens face aux flammes, situation dramatique au nord du pays, terrible bilan humain, 71 morts et des moyens dérisoires pour lutter contre les incendies. En France, la diaspora s'organise sur place, la colère populaire monte. En Afghanistan, les talibans continuent de progresser, encore deux villes majeures tombées ces dernières heures. À la une aussi ce midi, des bébés hospitalisés pour Covid à Nice, rien d'inquiétant mais rien d'étonnant non plus. L'arrestation de Christian Maillot, une figure des complotiste qui avait appelé à marcher sur l'Elysée au mois de décembre dernier. Les chiffres du chômage plutôt stables, c'est une bonne nouvelle notamment pour les jeunes. Et puis dans les pas géants d'un mammouth laineux, 17 000 ans plus tard, nous dira une paléontologue. La canicule qui nous pousse parfois à pousser la clim, parfois un peu trop, on en parlera aussi. Avec la météo, forte chaleur dans le sud-est, toujours 5 départements en vigilance canicule et du soleil un peu partout en France.
France Inter.
La planète brûle cet été. Grèce, Turquie, Californie et depuis le début de la semaine, l'Algérie. Plus de 70 morts, des villages dévastés, 22 pyromanes présumés arrêtés et des flammes incontrôlables donc. Bilan provisoire au premier jour du deuil national décrété dans le pays. Situation dramatique dans le nord, en Kabylie particulièrement, le feu toujours attisé par les fortes chaleurs. D'autant que la lutte, bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour, bonjour.
La lutte contre ces incendies se fait malgré un manque cruel de moyens.
Ah oui, tout d'abord, pour comprendre la situation en Algérie, il faut juste regarder les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Images qui sont éloquentes et impressionnantes, notamment celle de Kabylie, la nuit où l'on voit les flammes s'élever dans le ciel avec des nuages de particules en feu danser dans le noir autour des habitants. Ou encore avec ces photos de jeunes tentant de stopper l'avancée des incendies en tapant sur le sol avec de simples branches. Et c'est tout le drame de l'Algérie, le manque de moyens auquel on peut ajouter l'inefficacité des autorités, sans oublier la corruption en amont qui aboutit à de cruels manques et à de la désorganisation.
Restez avec nous, Nathanaël. Face au désastre, c'est toute une communauté qui se mobilise, les Algériens sur place, mais au-delà, la diaspora, au-delà des frontières algériennes, réseau de soutien et de secours qui s'organisent d'eux-mêmes. L'association Medical Hope, par exemple, basée à Toulouse, recherche du matériel pour pouvoir l'expédier sur place. Son président Marwan Mesker, joint par Saber Zendoubi.
Pour les sinistrés des incendies, donc c'est vraiment le matériel nécessaire pour les soins locaux, pour les brûler, donc c'est biafine ou équivalent, du tulle gras ou équivalent, compresses, des masques chirurgicaux parce qu'il faut quand même protéger les personnes sinistrées par rapport au Covid. Donc vraiment, c'est tout ce qui est matériel qu'on peut acheter en pharmacie sans ordonnance, on part en pharmacie. Et dès qu'on a ce qu'il faut, l'avion partira de Toulouse vers Alger et ensuite il va être acheminé directement grâce aux associations locales fiables avec qui on a déjà collaboré, qui vont assurer l'acheminement vers les zones les plus touchées en priorité. Ce n'est pas du matériel humanitaire de confort, c'est des vies qui sont en danger, qu'il faut qu'on aide le plus tôt possible pour limiter en fait les dégâts, parce que les dégâts sont malheureusement là, mais limiter les dégâts humains.
Marwan Mesker de l'association Medical Hope. Nathanaël Charbonnier, ce manque de matériel, il arrive au milieu d'une crise Covid qui frappe le pays de plein fouet, et ces incendies, ils réveillent la colère du peuple algérien.
Ah oui, une colère en Algérie qui monte d'autant plus que cette crise arrive après un an et demi de colère avec les manifestations du Irak, après la crise du Covid, vous venez de le dire, qui elle aussi aurait été mal gérée par les autorités, comme nous l'explique depuis Alger, Célia, elle est kabyle d'origine.
Quand on voit nos terres, nos paradis, bien sûr qu'on est en colère déjà, ils ont tardé pour demander de l'aide, par exemple à l'Union Européenne et tout et tout. De deux, on n'a pas les moyens. On a rien, ni les camions, ni les canadaires, ni les avions, ni rien du tout. Et on dort pas jour et nuit, on n'arrive pas à dormir, on est en train de suivre ce qui se passe en Kabylie. Après, il y a aussi le problème de Corona, juste avant les feux.
Voilà.
Les gens étaient déjà en colère.
Colère, incompréhension. En attendant, c'est la solidarité du peuple algérien qui se met en place depuis le début de la semaine en Algérie. Puis, vous l'avez dit, en France aussi avec la diaspora.
Colère qui oblige les autorités à réagir et à trouver des parades pour tenter de calmer la population.
Alors, il y a deux leviers sur lesquels elle tente de jouer depuis le début des incendies pour détourner l'attention. Le premier, c'est de désigner des coupables. L'idée est de dire que la majorité des incendies sont d'origine criminelle, allumés par des pyromanes présumés qui seraient responsables des feux. Il faut dire dire que des dizaines d'incendies ont débuté en même temps et que cela interroge. Conséquence, déjà 22 personnes arrêtées depuis le début de la semaine. La seconde, eh bien, c'est de faire de ce drame un enjeu politique. Le président Tebboune a ainsi appelé dans un discours à l'unité nationale. Il a également accusé, sans les nommer, les indépendantistes kabyles de vouloir exploiter la catastrophe pour diviser le pays.
Merci Nathanaël. En Grèce, nous en parlions lors du soulagement. Les incendies sont finalement maîtrisés d'après les autorités. Et grâce aux pluies de ces derniers jours et la chute des températures, les pompiers restent en alerte sur l'île d'Eubée, toutefois dans le Péloponnèse, à cause des vents forts prévus ce week-end. Plus de 100 000 hectares partis en fumée en Grèce depuis fin juillet. Quant à la Turquie, à peine remise des incendies de ces dernières semaines, elle déplore au moins 27 morts à cause des inondations dans le nord du pays. En Afghanistan, les talibans semblent inarrêtables. Offensive express, les villes tombent les unes après les autres avec la prise ces dernières heures d'Herat à l'ouest, deuxième ville du pays et plus symbolique encore. Bonjour Valérie Krova.
Bonjour.
Kandahar au sud, désormais aux mains des talibans.
Oui, Kandahar, c'est le berceau spirituel des talibans. C'est là que le Mollah Omar avait réuni en 1994 des dizaines d'étudiants sortis d'une école coranique, ce qui avait donné naissance au mouvement des étudiants en religion. Les talibans en ont fait ensuite la capitale de leur émirat islamique de 1996 à 2001. Situé dans le sud où ils ont renforcé leur position ces derniers jours, Kandahar, qui est proche du Pakistan, est aussi et surtout une ville stratégique parce qu'elle ouvre la voie par la route vers Kaboul au nord, qui est située à environ 500 km. Sa chute est donc un coup dur, un de plus pour le gouvernement de Kaboul. La capitale reste pour l'instant sous le contrôle des autorités afghanes, mais les services de renseignements américains estiment qu'elle pourrait être encerclée d'ici un mois, voire tomber dans trois mois si les talibans continuent leur progression fulgurante. À part Kaboul, donc, Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, et Jalalabad à l'est. Les autres grandes villes sont désormais sous le contrôle des talibans. Depuis le 6 août, ils se sont emparés de 14 des 34 capitales provinciales du pays. À moins d'une contre-offensive de grande ampleur dans les prochains jours, on voit difficilement comment le pays peut échapper au retour des fondamentalistes qui veulent restaurer un émirat islamique en Afghanistan basé sur une version ultra-rigoriste de la charia.
Valérie Krova, une réunion de l'OTAN doit avoir lieu aujourd'hui après l'annonce de l'évacuation des Américains. Les États-Unis et le Royaume-Uni continuent d'évacuer leur personnel et les diplomates. Le retrait des troupes militaires étrangères sur place débutée au printemps doit s'achever le 31 août. La France boycottera la prochaine conférence de Durban en Afrique du Sud, Forum des Nations Unies contre le racisme. 20 ans après la première du nom, elle se range, la France, derrière l'avis de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, Israël, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, préoccupés, dit l'Élysée ce matin, par les déclarations antisémites prononcées dans son cadre lors des précédentes éditions.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demany.
13h08, des nouveaux-nés hospitalisés à cause du Covid. L'alerte vient d'un médecin de Nice, hôpital Lanval. 25 cas positifs chez des enfants en 10 jours, une dizaine de nourrissons de moins d'un mois hospitalisés. Dans chacun des cas, les parents n'étaient pas vaccinés. Les enfants sans doute contaminés dès leur premier jour. Alors faut-il, Véronique Julia, s'en inquiéter?
Pour le docteur Philippe Bab, il est chef de service adjoint des urgences pédiatriques de l'hôpital Lanval à Nice. La situation de ces 10 derniers jours est totalement inédite. Elle lui rappelle les épidémies de bronchiolite l'hiver. Le point commun de ces nourrissons, leurs parents n'étaient pas vaccinés. Les bébés arrivent avec de la fièvre et peuvent rester plusieurs jours.
C'est souvent 39 de fièvre et ça s'accompagne souvent de difficultés alimentaires, raison pour laquelle on les hospitalise à la fois pour faire un bilan infectieux et pour surveiller l'alimentation, voire leur mettre une perfusion si c'est nécessaire.
C'est de la surveillance surtout, car les cas observés, précise le médecin, ne sont pas gravissimes. Ça ne veut pas dire donc que le variant Delta attaque plus durement les tout-petits, ça veut dire surtout qu'il se diffuse beaucoup et vite, avec un taux d'incidence de plus de 600 dans les Alpes-Maritimes. Pas étonnant qu'on observe des bébés Covid à l'hôpital, mais il n'y a pas d'affolement à avoir là-dessus, précise le pédiatre Robert Cohen.
Il n'est pas plus méchant, mais il est plus contagieux aussi pour les enfants. Et vous êtes dans une région où le taux d'incidence violence est le plus élevé de toute la métropole. D'ailleurs, dans une étude qu'on a publiée, on a parfaitement montré que c'était les petits qui allaient le mieux.
Pour éviter l'afflux de nouveau-nés à l'hôpital, les parents doivent se faire vacciner, insistent les médecins, qui rappellent aussi l'importance des gestes barrières, mais aussi de certaines règles de bon sens. S'efforcer si possible de ne pas trop traîner, par exemple avec un bébé en pleine épidémie dans une grande surface.
Au niveau national, c'est une bonne nouvelle. Le nombre de nouveaux cas grimpe un peu moins vite que ces dernières semaines, mais l'épidémie continue de progresser dans les régions touristiques du pays, Corse, région PACA et Occitanie. Les hospitalisations en hausse un peu partout en France, et cela à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation pour les anti-pass sanitaires. 250 000 manifestants attendus ce week-end dans près de 200 rassemblements, d'après les services de renseignement, rassemblements importants prévus notamment à Toulon dans le Var. Pendant ce temps, plus d'un an et demi après le début de la pandémie de Covid, la Chine vient de refuser une nouvelle demande d'enquête de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui cherche à déterminer précisément l'origine du coronavirus, réclame la publication de toutes les données que les États ont entre leurs mains. France Inter en Chine, Stéphane Pambrin.
C'est donc un refus catégorique de la Chine d'accepter une nouvelle mission de l'OMS à Wuhan. Pékin estime qu'il s'agit d'une approche non pas scientifique, mais politique. Elle ferme ainsi la porte à toute enquête internationale et cette décision fait suite aux pressions qui montent du côté de l'OMS qui a totalement changé son point de vue, notamment sur l'hypothèse d'une fuite de laboratoire à Wuhan. C'est Peter Ambarek, le chef de la délégation de scientifiques internationaux envoyé en Chine en janvier dernier, qui a jeté un pavé dans la mare, affirmant sur une chaîne de télévision danoise qu'un employé du laboratoire de Wuhan aurait pu être infecté après avoir prélevé des échantillons de ce virus sur des chauves-souris. Nous devrions avoir le droit d'examiner ces échantillons, explique-t-il, assurant que lors de sa mission en Chine, ils n'ont pas pu y accéder, se contentant d'une visite sous bonne escorte des sites de Wuhan. Pékin refuse et essaye d'allumer un contre-feu, demandant à son tour une mission d'enquête internationale, cette fois au laboratoire de Fort Detrick aux États-Unis, un laboratoire biologique militaire, agitant ainsi l'hypothèse d'un virus venu de l'étranger. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
Doublement attendu, le Conseil constitutionnel doit se prononcer aujourd'hui sur le projet de loi contre les séparatismes. D'abord saisi par plus d'une centaine de députés de gauche comme de droite. Il se penche également sur la loi climat. Là, ce sont des députés de gauche qui l'ont saisi, jugeant le texte trop timide face à l'urgence climatique. Les obsèques du père Olivier Maire, tué lundi, se tiennent aujourd'hui en Vendée, célébrées dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, ouverte au public avec un écran géant à l'extérieur. Le meurtrier, présumé un réfugié rwandais, déjà mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, est toujours hospitalisé en psychiatrie. Christian Maillot a été interpellé ce matin près de Saint-Étienne dans la Loire. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Cet ancien gendarme, on ne connaît pas forcément son nom, est l'une des figures des milieux complotistes.
Oui, c'est effectivement un ancien gendarme qui a déjà fait de la prison un homme qui s'était érigé en justicier pour lutter, disait-il, contre la pédophilie. Christian Maillot avait été condamné en 2018 pour avoir commandité l'enlèvement de 3 enfants à Montendre dans le sud de la Charente-Maritime, et ce à la demande de la mère. Une condamnation à 5 ans de prison qu'il n'avait pas effectuée au départ car il s'était enfui avant d'être arrêté par ses ex-collègues gendarmes. Il avait été repéré au Venezuela et extradé là. Il était cette fois recherché depuis le mois de décembre 2020 dans le cadre d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction de QC dans l'Allier, poursuivi pour avoir lancé des appels à l'insurrection, à la désobéissance civile et en particulier contre les gendarmes. Christian Maillot est membre du Conseil national de transition dont le chef a été mis en examen récemment pour avoir notamment appelé a marché sur l'Elysée le 18 décembre dernier. Cette fois, Christian Maillot n'avait pas quitté sa région dans l'Allier pour se cacher à l'étranger. Et ce sont à nouveau des gendarmes qui sont allés l'interpeller.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Sans doute encore un règlement de compte dans les Bouches-du-Rhône. Un homme de 27 ans tué par balle hier soir à Martigues. L'homme était connu de la police dans plusieurs dossiers de drogue. L'auteur a pris la fuite. Les chiffres du chômage, taux quasi stable au deuxième trimestre. 2,4 millions de chômeurs et 16 000 de moins qu'au dernier pointage, avec des disparités et de bons signes pour les jeunes, en particulier les 15-24 ans, grâce à des secteurs comme la restauration qui recrutent à tour de bras en ce moment. Quentin Pérez de Tudela.
Slalomée avec 2 plateaux dans les mains, Linda, 19 ans, en a vite pris l'habitude. Pourtant, elle ne connaît rien au métier de serveuse. Quand elle dépose son CV un matin au mois de mai, son recrutement est allé très vite.
On m'a appelé le soir, vers 16h, on m'a dit de venir vers 18h, je pense, je ne me rappelle pas très bien. Et du coup, j'ai commencé à 18h et tout s'est bien passé, du coup, on m'a embauché.
Environ 1500 euros par mois, en CDI en plus. au Petit Bouillon Vavin, restaurant du 6e arrondissement. Nathanaël vient lui aussi d'être embauché en CDI. Il est en pleine période d'essai.
En ce moment, on remplit des salières.
Ce trentenaire tournait en rond dans son bureau d'agent immobilier pendant la crise. Il a donc décidé de se reconvertir dans la restauration, un secteur, selon lui, plus épanouissant.
C'est surtout, voilà, on est tout le temps occupé. Et ça, c'est appréciable parce qu'il y a beaucoup de métiers où on se demande pourquoi on est là, si on a vraiment besoin de nous. Donc, c'est vrai que c'est moins sympa que ça.
Et c'est justement ce que recherche son patron, Laurent, qui a besoin de recruter 4 serveurs pour la rentrée.
J'aimerais être soulagé par d'autres personnes, entre guillemets professionnels, mais même s'ils ne sont pas et qui ont envie de bosser, ils viennent, moi je les forme.
En tout cas, il y a des besoins. Le nombre de postes à pourvoir dans les cafés et les restaurants se chiffre en dizaines de milliers, d'après une dernière enquête de Pôle emploi.
En cette vague de chaleur dans le sud-est, pensez pour ceux qui travaillent particulièrement en extérieur, cet été la Drôme, l'Ardèche, le Var, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont encore en vigilance orange canicule. On fera le point tout à l'heure avec Élodie Calac. En Provence, jusqu'à 38-39 degrés dans les prochaines heures. Et face à ces températures, certains sont tentés de pousser la climatisation pour se créer des îlots de fraîcheur, Fabien Leduc.
Oui, Maëva, par exemple, installe son bébé de 2 semaines à l'arrière de sa voiture.
Là, je vais lui mettre la climatisation quand même.
Mais une fois rentrée chez elle, la clim, c'est avec parcimonie.
On essaie de s'en passer avec un bébé en essai. On la met un petit peu le soir, de temps en temps, en fin de journée, quand il fait vraiment trop chaud dans la maison. Sinon, on a tout le temps les volets fermés. Le soir, à partir de 21h, on ouvre les fenêtres pour faire courant d'air et ça rafraîchit un minimum. On évite de faire tourner la clim à la maison.
Même chose pour Yves. Par ses fortes chaleurs, il se protège à l'ancienne.
Quand il fait trop chaud comme ça, on ferme les volets, on essaye de maintenir la fraîcheur de la maison, un petit ventilo à l'arrière et puis c'est tout quoi. Mais la clim, non.
Pour Ingrid, la clim est bien trop utilisée dans notre société.
Les températures sont très fraîches dans les lieux publics, aussi bien les trains, les commerces, que c'est surfroidi et qu'après justement, voilà, il y a vraiment une différence quand on sort à l'extérieur.
Selon Patrick, la clim à bon escient, c'est quand on n'a pas d'autre choix pour se protéger de la chaleur.
C'est vrai, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'il fait de plus en plus chaud. Moi, je vois, j'ai des amis sur Marseille, ils sont dans des petits appartements. Ils n'ont pas des appartements où ils peuvent faire courant d'air en ouvrant devant et derrière. C'est vrai que la clim, c'est important pour eux. Ils ne dorment plus.
Voilà, attention à la clim, pas très écolo. Et pensez bien à vous hydrater. C'est l'essentiel aussi si vous prenez la route en ce week-end du 15 août qui commence avec un trafic qui s'annonce difficile. Samedi, classé rouge dans le sens des retours notamment. Les orages ont perturbé en France l'alimentation électrique en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne ces dernières heures. Encore 12 500 foyers étaient privés d'électricité à la mi-journée dans l'Ain, le Rhône et la Loire. Enfin, 17 000 ans plus tard, dans les pas d'un mammouth laineux. C'est à la une du magazine Science cette semaine. Il s'appelle Kik et une équipe internationale de scientifiques a réussi la prouesse de reconstituer l'ensemble de ses déplacements en Alaska en analysant la défense du pachyderme. Une étude qui permet d'en apprendre beaucoup sur un pan jusqu'ici peu étudié, nous explique la paléontologue Claudine Cohen.
Ils se sont intéressés aux isotopes du strontium qu'ils ont trouvés dans l'ivoire des défenses de mammouth. Vous savez que les défenses de mammouth poussent de façon régulière tout au long de la vie d'animal. Et donc, ils ont prélevé à différents lieux de cette défense de la poudre d'ivoire dans laquelle ils ont analysé ces isotopes du strontium, qu'ils ont comparé avec les isotopes du strontium qu'on trouve dans le sol et dans les végétaux de différentes régions de l'Alaska. Et ils ont pu ainsi reconstituer, en quelque sorte, la carte des déplacements de ce mammouth dans toute la région de l'Alaska. Et on se rend compte que ces déplacements sont immenses et qu'ils s'étendent très largement. Au cours de ses 28 ans, il a parcouru 70 000 kilomètres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il revenait sur les mêmes lieux. Et puis, il s'est un peu égaré. Il est allé très au nord, presque au cercle polaire. Et là, il a peut-être eu des problèmes pour se nourrir. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il est mort. Mais en tout cas, on sait qu'au cours de sa vie, il a parcouru ces distances extraordinaires.
Fascinant. Claudine Cohen, paléontologue et autrice de l'ouvrage « Le destin du mammouth » interrogé par Hélène Chevalier. Vous ne pourrez évidemment pas vous payer un mammouth, mais bien d'autres choses, c'est certain. Nous sommes le vendredi 13 août aujourd'hui, et si vous êtes joueur, 13 millions d'euros à remporter au loto. 13 millions, ce n'est qu'une coïncidence. Bonne chance.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Pour un vendredi 13, le 13 août. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Toujours un temps caniculaire dans le sud-est avec 5 départements en vigilance orange.
Oui, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes d'Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes. Alors comptez 33 à 39 degrés sur le quart sud-est cet après-midi, jusqu'à 40 voire 41 en Provence, en Basse-Vallée du Rhône. Il fait déjà 38 degrés à Cogolin dans le Var, pratiquement 38 également à Bormes-les-Mimosas. On a 38 degrés 4 à Aubagne dans les départements des Bouches-du-Rhône. C'est le 13, c'est pour faire un petit clin d'œil. On attend également 32 degrés à Dijon, à Toulouse, 30 à Nancy et Arcachon, 29 à Paris, 21 degrés du côté de Deauville. Alors tout ça sous le soleil le plus souvent. La grisaille persiste tout de même un petit peu sur le sud-ouest. Il va falloir attendre pour retrouver le soleil, mais il va revenir. Et puis en montagne, une petite averse possible cet après-midi, voire un coup de tonnerre sur le Massif central et le Jura.
Et la température complémentaire, on l'aura pas. Elodie Calac, merci beaucoup à vous.